le journal de Loïc Georgi.
Bonjour, l'écart salarial entre les hommes et les femmes se réduit, c'est ce qui ressort du rapport 2020 de l'Office fédéral de la statistique. Toutefois, il reste important à l'échelle nationale. Un espace pour les étudiants a vu le jour à Porrentruy, il sera inauguré samedi à la salle de l'Inter. Nous sommes allés visiter les locaux, un reportage à suivre dans ce journal. L'équipe de France de football veut défendre son titre de championne du monde et elle entre en lice ce soir au Qatar pour une rencontre contre l'Australie. Les Bleus ont un effectif plutôt décimé pour cette Coupe du Monde. Des nuages et des éclaircies, c'est le menu météo du jour. Quelques averses ne sont pas à exclure non plus dans l'après-midi. Les températures seront quant à elles de saison. Et avant de développer ces titres, on vous signale que la circulation est fortement perturbée sur la 16 entre Saint-Ursanne et Glovelier. Le tunnel du Mont-Russelin est fermé à la circulation dans les deux sens depuis environ 11h ce matin. Un véhicule en panne a pris feu dans le tube. La police cantonale jurassienne l'a confirmé à RFJ. Il faut donc emprunter le col d'Érangier entre la Joie et la Vallée. Le tunnel restera fermé dans les deux sens jusqu'à environ 13h. Les femmes gagnent toujours beaucoup moins que les hommes, mais cet écart se réduit. La différence de salaire entre les deux sexes est passée de 19% en 2018 à 18% en 2020, d'après les chiffres de l'Office fédéral de la statistique. Un décalage qui reste en grande partie inexpliqué, les précisions de Marie Vuillemier.
L'écart salarial entre femmes et hommes reflète les différences entre les sexes sur le marché du travail, car la formation, l'âge, l'insertion professionnelle, le nombre d'années de service et le secteur d'activité varient fortement en fonction du genre. Les femmes sont surreprésentées dans les bas revenus, alors que les hommes sont majoritaires dans le haut de la pyramide salariale. Le décalage entre les sexes est plus grand dans les fonctions de cadre, ainsi que dans le secteur financier et dans l'industrie des machines. Il est plus faible dans l'hôtellerie-restauration et le commerce de détail. Dans le secteur public, l'écart salarial est passé de 18% en 2018 à 15% en 2020. Mais la part de différence inexpliquée a augmenté. 47% des salaires plus bas versés aux femmes ne trouvent aucune justification. Une hausse constatée à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. Cet écart inexpliqué est particulièrement important dans les petites entreprises. Sur l'ensemble de l'économie, cela signifie qu'en 2020, les femmes gagnaient en moyenne 717 francs par mois de moins que les hommes, juste à cause de leur genre.
Pas moins de 5000 militaires entament aujourd'hui le plus grand exercice de l'armée suisse depuis 33 ans. Prévu pour une semaine et dans 5 cantons alémaniques, l'opération Pilum 22 doit évaluer la capacité à défendre le pays et ses habitants en cas de conflit armé. C'est ce qu'explique le groupement de la défense. La planification de cet exercice a duré 2 ans. Et à l'étranger, le bilan du séisme de magnitude 5,6 qui a frappé l'île indonésienne de Java hier a été relevé à 252 morts. Annonce faite aujourd'hui par un porte-parole du gouvernement local. 31 personnes sont encore portées disparues après cette catastrophe qui a également fait plus de 300 blessés. Les députés jurassiens retrouvent les bancs du Parlement. Le législatif cantonal tiendra demain à Delémont sa 10e séance de l'année. 22 points sont à l'ordre du jour. Les élus se pencheront notamment sur une motion interne du socialiste Pierre-André Comte au sujet de la souveraineté cantonale. Le député de Velleras souhaite que le Parlement rédige un rapport sur l'évolution de cette souveraineté depuis 1979, en marge du 50e anniversaire du plébiscite du 23 juin 1974 qui sera célébré en 2024. Estime que les cantons voient leurs compétences diminuer de plus en plus au détriment du pouvoir fédéral. Pierre-André Comte déplore ses pertes et veut que les politiciens jurassiens réagissent.
Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de se poser la question de savoir où va ce qu'est devenu l'État que nous avons créé en 1974. Il est nécessaire, à mon sens, de réfléchir à tout cela parce que l'impression et la preuve est là que la souveraineté cantonale est de plus en plus rongée par des transferts incessants de compétences particulières au pouvoir fédéral. Et ça, je m'y oppose. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Je suis inquiet quant à ce délitement de la souveraineté cantonale face à l'avenir et face à ce que nous avions prévu lorsque nous avons créé l'État jurassien. Je pense qu'il faut vraiment regarder de près ce qui s'est passé depuis 50 ans et essayer de prendre des décisions par la suite qui permettent de rétablir un certain équilibre. Le Parlement et le gouvernement sont tous deux responsables de ces transferts de compétences à la Confédération. Je n'accuse personne ici et je pense que la question doit être posée dans tous les États cantonaux. Je considère, quant à moi, que l'État jurassien, quand on connaît son caractère et la manière dont il a pu faire émerger ses propositions ou sa présence au sein de l'Alliance fédérale, doit toujours montrer montrer l'exemple. Et je pense qu'il y a là aussi une question d'attitude personnelle des responsables politiques face à cette question de la souveraineté cantonale.
Le Parlement jurassien siège donc demain. Les questions orales seront à suivre en direct sur RFJ après 8h30. Moutier se prépare à un grand dimanche électoral. Les prévôtois sont appelés aux urnes pour élire leurs nouvelles autorités. La mairie se jouera entre le sortant Marcel Winisterfer et l'antiséparatiste Francis Pelaton. Les citoyens doivent également élire les membres du conseil municipal et du conseil de ville. Au législatif, les enjeux sont de taille avec des changements à l'horizon. Olivier Zanne.
Du changement, il y en aura, c'est sûr. Ben déjà du fait que le paysage politique à Moutier a passablement changé, il n'y a plus d'UDC, plus de PLR, plus de PSJB, plus d'interface, hein, ils ont disparu des listes. Par contre, une révolution quand même pas. Disons que la nouveauté, c'est que les partis de l'entente jurassienne, ils n'ont pas conclu d'apparentement cette année, c'est une première. C'est peut-être le premier pas vers un retour à une politique partisane traditionnelle, non plus une politique dictée par la question jurassienne. Je dis bien le premier pas, c'est sûrement encore un peu tôt. L'entente jurassienne, formellement, elle existe toujours avec le Parti Socialiste Autonome, premier parti de la ville, le Centre, le PCSI, le RORAC et puis le ralliement des prévôtois jurassiens. Certains de ces partis sont des résultats de la question jurassienne, ils sont toujours là. Même si on l'entend déjà, certains s'interrogent sur leur avenir. En attendant, tous ces partis autonomistes, ils vont quand même rester soudés jusqu'au transfert de la ville dans le canton du Jura au 1er janvier 2026.
Olivier Zanneau était dans la matinale aujourd'hui pour présenter les enjeux autour des élections à Moutier. Retrouvez son entretien complet sur rfj.ch. Porrentruy, ville de formation, veut choyer ses étudiants. Ce samedi, une salle qui leur est destinée sera inaugurée dans le bâtiment de l'Inter. Cet espace sera mis à disposition gratuitement tous les jours de 7h à 22h. Pour y accéder, les étudiants devront s'inscrire et verser une caution. Visite des lieux avec le conseiller communal en charge de la jeunesse, Éric Pinault.
Voilà, on est au premier étage du bâtiment de l'Inter. On entre dans cette salle où on a environ une quarantaine de places. Ça a été rafraîchi, un coup de blanc, des luminaires, il y a des tables, des chaises, tout ce qu'il faut finalement. Un endroit calme et lumineux pour les étudiants.
On est là un petit peu en mode récup, notamment par rapport à ces tables.
Voilà, c'est ça. L'idée, c'était vraiment pas de faire des frais importants. Vous savez, les étudiants, quand ils travaillent, l'idée, c'est d'être au moins assis, d'avoir une table, un réseau Wi-Fi, et puis des prises pour leurs ordis, etc. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Le but, c'est pas de faire du luxe, quoi.
Est-ce que ça répond vraiment à une demande de mettre en place ce genre de prestations ?
Alors, je pense que oui, c'est effectivement une demande déjà de la part de la commission de la jeunesse qui a initié le projet.
Mais si je suis un jeune, je vais peut-être me rendre dans d'autres lieux où j'ai mes habitudes, non ?
Alors oui, effectivement, la bibliothèque du lycée, par exemple, mais pas seulement. Le week-end, la bibliothèque est fermée. Et puis, ceux qui veulent travailler en dehors de leur cercle familial, de la maison finalement, ou à plusieurs étudiants, ce qui se fait souvent quand même, eh bien, il n'y a pas vraiment de lieu propre à ça.
Comment on s'assure qu'il n'y ait pas de débordement dans cette salle ?
À l'essai. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'on va faire confiance aux jeunes qui viennent étudier. Celui qui prend la clé avec le badge, eh bien, il laisse une caution de 30 francs et voilà, on sait qui est responsable de la salle quand elle est occupée.
Éric Pinault, conseiller communal en charge de la jeunesse, répondait à Nancy Chapuis. L'inauguration de cette salle se déroulera ce samedi dès 10h.
Vous écoutez RFJ, il est 12h24.
Sport. La France entame la défense de son titre mondial au Qatar. Les Bleus font leur entrée en lice ce soir à la Coupe du Monde de football. Ils se mesurent à l'Australie à 20h. Des Bleus décimés par les forfaits de N'Golo Kanté, Paul Pogba et Karim Benzema notamment. Il ne sera donc pas facile de rééditer la performance d'il y a 4 ans en Russie. Mais malgré tout, le capitaine et gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris, veut mettre les doutes de côté.
On continue de croire en nos chances, de croire en notre groupe, en notre aventure. On doit s'en servir pour continuer à grandir en tant qu'équipe, à se soutenir. Forcément, les forfaits de dernière minute n'ont pas aidé l'équipe. Encore moins celui de Karim, parce qu'on connaît son importance au sein de l'équipe. Mais j'ai envie de croire que l'équipe continue d'avancer. On a hâte de commencer le premier match, de lancer notre compétition et de créer une dynamique positive à travers le résultat. Donc, même si la préparation a été assez courte, La vérité reste celle du terrain et on en saura un petit peu plus après le match face à l'Australie.
France-Australie, c'est donc ce soir à 20h et toujours dans ce groupe D. Le Danemark défie la Tunisie cet après-midi à 14h. Et un autre favori de cette Coupe du Monde au Qatar est déjà à l'œuvre. L'Argentine fait face à l'Arabie Saoudite et peut-être qu'on est en train de vivre la première grosse surprise de cette Coupe du Monde puisqu'on joue la 62e minute au Qatar et pour l'instant c'est l'Arabie Saoudite qui mène face à l'Argentine 2-1. Même si l'Argentine a ouvert le score grâce à Lionel Messi à la 10e minute, Saleh Al-Sherry et Salem Al-Dawsari ont réussi à permettre à l'Arabie Saoudite de passer devant dans cette rencontre. Et à 17h, le Mexique en découlera avec la Pologne dans le même groupe. Et toujours en lien avec le Mondial, le roi Sané ne participera pas au premier match de l'Allemagne. L'attaquant du Bayern Munich n'a pas participé à l'entraînement de ce matin en raison d'un problème au genou. Il a ainsi déclaré forfait pour la rencontre contre le Japon de demain. On revient en détail sur les résultats de la journée et toute l'actualité de ce Mondial ce soir à 18h30 dans le journal de la Coupe du Monde. Le top 4 du classement de 2e ligue de hockey sur glace, c'est dans le viseur de Vandenacourt et Moutier. Ajoulot et Prévotois s'affrontent ce soir à 21h à Porrentruy. Les locaux comptent un point d'avance sur les visiteurs avant ce match. Le vainqueur prendra la 4e place et les commandes de la hiérarchie régionale aux dépens de la réserve de Franche-Montagne. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis et très belle journée.